RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, cela reste un casse-tête. Après 2 ans de négociations, la question de la frontière entre la République d'Irlande, qui reste dans l'Union européenne, et l'Irlande du Nord, l'une des 4 nations du Royaume-Uni avec l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre, et qui s'apprête à quitter l'Union européenne à cause du Brexit. Un Brexit contre lequel les Nord-Irlandais ont voté à 56%, mais derrière ce chiffre se cache une autre réalité. Les catholiques ont voté à 80% contre, et les protestants ont voté à 60% pour. Le Brexit ravive donc les divisions en Irlande du Nord, 20 ans après la fin d'un conflit qui a duré 30 ans, pour s'achever avec la signature des accords de paix du Vendredi Saint en 1998. Une frontière physique avec la République d'Irlande, alors qu'elle est aujourd'hui quasi inexistante, puisque les deux entités font encore partie de l'Union européenne, pourrait déclencher de nouvelles violences. Brexit, le casse-tête nord-irlandais. Grand reportage en Irlande du Nord, signé Béatrice Leveillé.
En Irlande du Nord, la vie politique est en suspens. En désaccord sur le fonctionnement des institutions et sur la reconnaissance du gaélique aux côtés de l'anglais comme langue officielle, les partis républicains et unionistes, autrement dit catholiques et protestants, ne siègent plus au Parlement et les Nord-Irlandais entament leur 3e année sans gouvernement. Pour tenter de renouer les liens à l'approche de la date fatidique du Brexit, le Comité économique et social de l'Union européenne a réuni à Belfast les représentants des principaux partis. Les républicains du Sinn Féin refusent de siéger à Londres, à la Chambre des communes. C'est donc le DUP, parti unioniste pro-Brexit, qui représente les Nord-Irlandais. Avec une stratégie qui laisse perplexe une bonne partie de la population, puisqu'il a rejeté le plan de Theresa May et son backstop, un filet de sécurité, qui permettait pourtant d'éviter de recréer une frontière physique entre les deux Irlandes. Jeffrey Donaldson, élu DUP au Parlement britannique, tente d'expliquer la position de son parti.
Nous voulons des changements qui prennent en compte nos problèmes. Le backstop est une vraie préoccupation à la Chambre des communes. J'espère qu'on va faire des progrès et obtenir un pas de l'Union européenne. Quelle que soit l'issue du Brexit, nous devons protéger les institutions mises en place par les accords du Vendredi Saint et les principes de l'accord. Et ça, ça reste notre engagement. C'est pour cela qu'on se bat, pour obtenir des changements autour du backstop, parce que nous pensons que le backstop peut abîmer le processus de paix. Et on ne peut pas laisser faire ça.
Le Sinn Féin, en cas de Brexit dur, fera campagne pour le rattachement d'1,8 million Nord-Irlandais, pour moitié protestants, à la très catholique République d'Irlande et à ses 5 millions d'habitants. Keva Archibald, membre de l'Assemblée législative nord-irlandaise.
On a été très clair. Dans le contexte d'une sortie sans accord, qui serait absolument catastrophique pour les Irlandais, pour notre économie, nos entreprises et nos communautés, le retour d'une frontière physique, notamment avec des infrastructures, serait un drame. Cela ne doit pas se produire, mais dans le cas d'une sortie sans accord, on demandera un référendum sur l'unité de l'Irlande et les gens pourront avoir l'opportunité de choisir entre rester dans l'Union européenne ou rester dans le Royaume-Uni. Avec les accords du Vendredi Saint, un tel référendum est envisageable. Les gens doivent pouvoir se prononcer sur leur avenir.
C'est le Brexit qui crée cette situation pour Michael Nesbitt, lui aussi élu au Parlement nord-irlandais pour le parti unioniste d'Ulster, un parti protestant.
Les accords de paix de Belfast en 1998 disent que les gens qui vivent en Irlande du Nord ont le droit de décider de leur propre identité. Personne ne peut le faire à leur place et ce qui interfère aujourd'hui avec le processus de paix, c'est le fait que les nationalistes anglais veuillent retirer aux Nord-Irlandais leur part européenne. Le résultat, c'est que l'avenir constitutionnel de l'Irlande du Nord est remis en question pour la première fois depuis 21 ans. Quant à ceux qui soutiennent le Brexit, ils prétendent qu'ils peuvent contrôler la frontière avec des innovations high-tech. Mais personne n'a été capable d'en faire la démonstration et d'apporter un exemple international que nous pourrions suivre. Dans l'incertitude, nous sommes obligés de suivre le Royaume-Uni sans savoir ce que cela signifie pour nos échanges à l'avenir.
Jane Morris, ancienne présidente de l'Assemblée nord-irlandaise, membre du Comité économique et social européen, qui a participé aux négociations de paix, était à l'initiative de cette rencontre.
En fait, c'était intéressant parce qu'on avait beaucoup de gens des pays européens ailleurs. Alors, c'était important qu'on s'écoute et on se comprend, en espérant que ça va changer quelque chose.
Pense-t-elle, comme son collègue du DUP, que l'Union européenne veut punir les Britanniques ?
C'est une parole politique beaucoup trop facile. Et ça, c'est le problème de maintenant. C'est les gens qui disent les choses, l'Europe veut nous punir, et ces mots comme ça qui sont très, très émotifs.
Est-ce que vous êtes inquiète ?
Je suis très inquiète. J'hésite de dire que c'est dangereux, parce que c'est des mots que je ne veux pas utiliser. Mais vraiment, la division entre les Irlandais et les Britanniques qui coexistent ici en Irlande du Nord, ça va être encore plus dur entre les deux. La division va être encore plus divisée à cause de Brexit. Et c'est pas simplement la frontière. Tout le monde parle de la frontière, mais c'est dans les cerveaux aussi. C'est le côté irlandais qui se croit européenne. Ils voient leurs droits européens qui n'existent plus. Et les Britanniques qui disent « Oh, c'est formidable, on va être libre » et tout ça. Et c'est les deux mentalités différentes. Et je pense que c'est pas bon.
L'Europe a beaucoup contribué au processus de paix ?
Beaucoup. Énorme. L'Europe a donné de l'argent au fond. C'était le programme de paix qui était vraiment le soutien solide de l'Union européenne à ce que s'est passé en Irlande du Nord. Et vraiment, c'est sans aucun doute le programme de paix et le fait qu'on ait été membre de l'Union européenne, c'est les deux choses les plus importantes pour le processus de paix en Irlande du Nord.
Les débats étaient organisés à la Queen's University de Belfast, une des 20 meilleures universités britanniques. Les bâtiments en briques, de style néo-gothique, ont été construits au 19e siècle. Ils s'étendent le long d'un jardin botanique.
Nous sommes au 9e étage du Law School Building à Queen's University, dans une pièce dédiée à la méditation, où nous avons une vue remarquable sur Belfast.
Le professeur Colin Harvey est un spécialiste du conflit qui a ensanglanté l'Irlande du Nord de 1968 à 1998.
En regardant la ville, on peut voir sur notre droite le Parlement de Stormont et un des problèmes justement en ce moment, c'est que nous n'avons pas de gouvernement. Le gouvernement s'est effondré en janvier 2017. Queens est vraiment au centre de la ville. Quand on va à l'ouest en Irlande du Nord, les républicains ou nationalistes sont plus nombreux. Vers l'est de la ville et de la région, ce sont les unionistes ou loyalistes. Le DUP ne va pas vraiment dans le sens des Nord-Irlandais sur le Brexit. Et le Brexit est l'une des raisons pour lesquelles les institutions ne fonctionnent pas. En Irlande du Nord, la société est encore très divisée. Les gens vivent encore séparés, particulièrement dans la classe ouvrière. C'est une société qui émerge lentement d'un conflit, mais certaines des situations qui ont provoqué ce conflit sont toujours là et ce qu'on craint, c'est que le Brexit provoque une crise qui déstabiliserait le processus de paix et nous ferait courir un vrai danger.
Les catholiques, longtemps minoritaires en Irlande du Nord, sont désormais presque aussi nombreux que les protestants. Mais face à la menace du Brexit, le référendum proposé par le Sinn Féin sur la réunification de l'Irlande n'est pas nécessairement une bonne réponse pour David Finnemore, professeur de droit européen à la Queen's University.
L'Irlande du Nord coûte au gouvernement britannique une somme considérable, entre 10 et 12 milliards de livres par an de subventions. Évidemment, cela affecte la façon dont on peut entrevoir l'unification. Pour la République d'Irlande, ce serait un fardeau de nous prendre en charge. Nous, en Irlande du Nord, on regarde ce que cela nous apporterait, parce que sans les subventions de Londres, il est probable que nous n'aurions pas un meilleur système social et un meilleur système de santé publique, on pourrait y perdre. Cela explique pourquoi nous n'avons pas de majorité aujourd'hui pour la réunification, y compris chez les nationalistes.
Les Nord-Irlandais attendent inquiets que leur sort se décide à Londres, mais ils n'ont pas manifesté leur inquiétude ou leur mécontentement dans les rues. Will McGarry, enseignant à la Queen's University et syndicaliste, nous explique pourquoi.
La menace du Brexit, qui imposerait une frontière physique, ou seulement la détérioration des relations entre les représentants politiques au nord et au sud, représente une réelle menace pour nous tous. J'aimerais penser que le passé agité de mon enfance est derrière nous, mais des questions aussi brutales entraînent des réactions brutales. Les gens sont polarisés, ils ont des opinions très tranchées. Il y a une tradition au Royaume-Uni et en Irlande du Nord de ne pas manifester. Mais cela dépend de la façon dont les choses tournent dans les semaines à venir. On pourrait assister à de grandes manifestations, des manifestations de gens en colère, parce qu'ils sont très en colère. Ils pensent qu'ils ne sont pas entendus, pas représentés, et ils s'inquiètent pour leur avenir et celui de leur famille. Il nous faudrait des gilets jaunes.
À une centaine de kilomètres à l'ouest de Belfast, Londonderry. Derry pour les catholiques, la deuxième ville d'Irlande du Nord. Elle est située au fond d'une baie près de la frontière avec la République d'Irlande. Au XVIIe siècle, les protestants ont résisté à la révolte des catholiques irlandais, protégés par ses enceintes fortifiées. Depuis, cette ville est un symbole pour les protestants, mais aussi pour les catholiques, car elle a été le théâtre des affrontements les plus sanglants pendant le récent conflit, avec le tragique épisode du Bloody Sunday, qui a inspiré des réalisateurs de films, mais aussi des artistes comme John Lennon, Paul McCartney ou U2. Au pied des remparts, le Boxside, le quartier catholique de Derry. Des centaines de petites maisons surplombées par une cathédrale, la cathédrale Saint-Eugène. Dans un local qui accueille les anciens prisonniers de l'IRA, les murs sont couverts de souvenirs. Les anciens prisonniers ont même reconstitué une cellule identique à celle dans laquelle ils ont passé des années. Gary Adams a passé 13 ans derrière les barreaux. Il décrit cette pièce minuscule où les prisonniers refusaient de porter des vêtements des droits communs pour réclamer le statut de prisonnier politique.
Vous aviez juste un matelas au sol et une couverture. Elle était déchirée sur le dessus pour passer la tête. On ne portait rien en dessous. Il n'y avait aucune sortie, juste une visite par mois et une lettre par mois, c'est tout. On était deux là-dedans. Les cellules en prison sont toujours petites.
Gary nous montre des photos sur les murs.
Voilà des images de la police et de l'armée dans nos rues, dans les années 70-80, avec des véhicules armés et des tanks. Ils ont tué des enfants avec des balles en plastique, et le gouvernement britannique disait sans arrêt qu'il était là pour maintenir la paix entre les deux communautés. Mais lors du Bloody Sunday, il y avait seulement l'armée britannique et ils ont tiré. Ils ont tué 14 personnes.
La visite continue. Gary nous montre des étagères remplies d'objets fabriqués par les prisonniers pour leurs familles ou leurs amis. Des tambours, des harpes en bois, un moulin à vent qui fait de la musique. Sharon, la femme de Gary, enfoncée dans un fauteuil, nous regarde, perdue dans ses pensées.
J'ai été arrêtée dans un appartement par un policier qui m'a mis un pistolet sur la tempe. Il m'a dit « Sharon, tu es morte ». J'ai été emprisonnée pendant 7 ans et demi, après avoir été jugée devant un tribunal, d'abord pour meurtre, et puis pour intention de meurtre et possession d'armes.
Une violence qui a laissé des traces et qui peut ressurgir pour Sharon et Gary.
Pour d'autres groupes, ce n'est pas fini. Il y a des groupes qui s'entraînent encore.
Le Brexit ici est en effet explosif. Une bombe placée dans une voiture a explosé devant le tribunal de Derry en plein centre-ville au mois de janvier, sans faire de victimes mais rappelant les pires heures du conflit. Les habitués du marché couvert de Society, à deux pas, se disent déterminés à ce que l'histoire ne se reproduise pas. John Caswell.
Non, ce ne sont pas les mêmes gens. C'est une organisation complètement différente. C'est un petit groupe, des gens qui n'adhèrent pas aux accords de paix. Ils essayent de promouvoir leur cause, mais la population ne permettra pas que cela arrive. C'est une minorité et ils n'ont pas beaucoup de soutien. Quelles que soient les circonstances, nous ne permettrons pas que des gamins se fassent tuer. C'est une ville qui a été divisée, mais nous avons recommencé à vivre ensemble ces dernières années. Les habitants de cette ville sont prêts à reconnaître qu'il y a différents points de vue. Nous sommes prêts à écouter ces gens et il faut qu'ils entendent aussi notre point de vue. Je suis né ici, j'ai grandi ici et c'est ma petite fille. J'ai grandi pendant les troubles. On a dû faire avec. Ce n'était pas exactement ce que les médias ont décrit. Les médias glorifient certaines choses parce que les mauvaises nouvelles font vendre, les bonnes, moins. Mais ici, je vous assure, désormais les gens sont prêts à discuter plutôt qu'à prendre les armes. Vous savez, le meilleur moyen d'éviter un conflit est de ne pas avoir de conflit.
Il y a bien une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, mais elle est devenue invisible. De petites routes sinueuses qui traversent des champs, des montagnes et des rivières. Irlandais et Nord-Irlandais se déplacent aujourd'hui comme si elles n'existaient pas, explique Michael Nesbitt, député et ancien dirigeant du parti unioniste d'Ulster.
Pendant les troubles, le gouvernement savait que vous aviez traversé la frontière parce qu'il y avait des guérites avec l'armée qui contrôlaient votre voiture et vos papiers. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Vous réalisez que vous avez passé la frontière uniquement parce que les panneaux de signalisation indiquent des kilomètres et non des miles comme en Irlande du Nord. Et si vous allez dans les boutiques, ils vont vous faire payer en euros plutôt qu'en livres. Mais près de la frontière, ils acceptent les deux monnaies.
Malin Head, des falaises fouettées par les vents et déchiquetées par les vagues furieuses de l'Atlantique. C'est le point le plus au nord de l'Irlande. Pourtant, nous ne sommes pas en Irlande du Nord, mais en République d'Irlande, dans le comté de Donegal. Pour atteindre cet endroit magnifique qui a servi de décor au film Star Wars, il faut traverser la frontière et emprunter des routes sinueuses à travers des landes montagneuses peuplées de moutons. Une frontière isolerait à nouveau toute cette région, qui a elle aussi souffert du conflit. L'économie de la région est déjà affectée par le Brexit. Des agriculteurs qui vendent leur production à Derry ont déjà commencé à abandonner leurs fermes.
Mon nom est William McElhenney. Je dirige Wild Strands, une entreprise basée sur les algues primées par Irish Heritage. Nous voulons faire connaître les beautés du Nord-Est et sa population. Mais cette idée de Brexit va détruire beaucoup de nos efforts. Pour les gens d'ici, ce n'est pas une option. Ce n'est pas possible. Derry, c'est chez nous. C'est la grande ville du coin. Un endroit qui fait partie naturellement de Inishowen. Les gens de Inishowen y vivent et y travaillent. Donc une frontière physique que les gens devraient traverser, cela les empêcherait de travailler. Et moi aussi, car je tente de développer l'écotourisme ici à Malin Head. J'essaye d'attirer des touristes étrangers, mais voyager en changeant de législation, ce n'est pas possible. Et cela veut dire qu'on va à nouveau être isolé ici.
Pourquoi, ajoute-t-il, parle-t-on toujours des gens qui prônent la violence et la division et pas de ceux, comme moi, qui défendent une langue, une culture et mettent en valeur des territoires ? Le Brexit, qu'il ait lieu ou non, a déjà commencé à troubler la sérénité des Landes irlandaises. Brexit, le casse-tête nord-irlandais, un reportage de Béatrice Leveillé à la réalisation Ludivine Amadou.